la situation actuelle des cartels, c'est le résultat de cette fameuse lutte contre le narcotrafic qui a été engagée par le président Calderón dès 2006 et qui a fait à peu près, ne l'oublions pas, 100 000 morts au Mexique. Donc c'est un véritable presque état de guerre civile. Alors, il y avait vers 2006 à peu près 5 grands cartels identifiés sur la frontière nord, dans l'ouest du pays, du côté de Guadalajara, du Jalisco, l'état du Veracruz aussi très contrôlé, et des cartels moins importants du côté du Guerrero. 5 grands cartels. Le résultat de la lutte, qui a eu des fruits. Il y a de nombreux narcotrafiquants très importants qui ont été arrêtés, comme El Chapo Guzmán, le chef du cartel de Sinaloa. C'est qu'au lieu d'avoir 5 grands cartels, maintenant, il y en aurait au moins 9, plus une quarantaine de cartels de niveau inférieur, plus ou moins alliés, plus ou moins dépendants, plus ou moins des filiales des cartels principaux. Donc la lutte est devenue de plus en plus difficile parce que cette grande structure pyramidale qui existait, elle s'est fragmentée et maintenant les forces de police et les forces armées doivent lutter contre une nébuleuse de cartels qui sont parfois en relation étroite. Mais quand il y en a, on en touche un, bien, ça profite à l'autre, et finalement, sont les fameuses têtes de l'hydre d'Hercule. Quand on en coupe une, il y en a une autre qui repousse.
Et comment on peut expliquer cette fragmentation des cartels ?
Il y a des gros poissons qui sont tombés. La Tuta, par exemple, qui était le chef d'un cartel particulièrement sinistre, Los Caballeros Templarios, donc qui œuvrait surtout dans l'état du Michoacán. Il a été arrêté, très bien, mais les structures restent là et ça se reproduit un petit peu comme un cancer. Vous avez des métastases qui se diffusent, qui se développent, une tête tombe, quelqu'un va prendre le relais ou alors il va y avoir scission et un nouveau cartel va prendre la place avec un nouveau nom. C'est le cas par exemple aujourd'hui du cartel Jalisco Nueva Generación, un cartel justement de nouvelle génération, beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort et je dirais presque beaucoup plus armé que ceux qui existaient auparavant, qui pourtant étaient réellement très solides dans ce domaine, eh bien c'est le résultat d'une scission avec un cartel antérieur et c'est ce cartel-là qui est impliqué dans l'assassinat des jeunes qui ont été enlevés en janvier par la police, parce qu'ils ont aussi des antennes dans le Veracruz, même si leur base, c'est Jalisco. On estime que sur les 31 États plus le district fédéral du Mexique, ce cartel de Jalisco Nueva Generación est présent dans 8 États, est présent fortement dans 8 États. Donc vous le voyez, avec ça, plus les connexions internationales, bien entendu avec les États-Unis, ça représente une force considérable.
Et est-ce qu'à l'intérieur des cartels, il y a eu une évolution du fonctionnement ?
Il y a évidemment des chefs, mais il y a aussi des délégués. Il y a donc une pyramide, une structure pyramidale qui permet de faire fonctionner le système, un petit peu comme dans une armée. Et d'ailleurs, les CETAS, par exemple, cartel fameux et particulièrement féroce qui est parti du Veracruz et qui s'est étendu vers la frontière nord du Mexique, en fait, ce sont d'anciens militaires des forces spéciales qui l'ont fondé. Donc on voit qu'ils ont de quoi alimenter, je dirais, leur stratégie et leur politique. Alors, ce qui se passe, c'est que même quand un chef est arrêté, les affaires continuent. Et les affaires continuent, pourquoi ? Parce que, eh bien, ils restent en contact avec les lieutenants qui sont sur place, sauf quand les lieutenants se rebellent et profitent de l'occasion, mais ils ont souvent très peur et finalement, ils préfèrent rester soumis. Et donc, depuis la prison, les affaires continuent. C'est ce que affirmé El Chapo Guzmán. Mes affaires se portent bien. Je peux être dans la prison de plus haute sécurité du Mexique. Ça continue à fonctionner parce que j'ai les réseaux, j'ai les structures. Et il ne faut pas oublier qu'au Mexique, il y a entre 500 et 600 000 personnes directement ou indirectement impliquées dans le trafic de drogue, que ce soit pour la production, la transformation, le transport, la surveillance, etc., etc. Donc ce sont des structures lourdes qui peuvent se reproduire par scissiparité, mais quand un élément central est touché, la structure peut se maintenir.
Et comment se passent les arrangements avec les autorités locales ?
Si on peut parler d'arrangements avec les autorités locales, oui, effectivement. Il y a eu récemment une enquête dirigée par le Sénat mexicain qui montre qu'il y a plus de 70% des municipalités mexicaines qui sont soit infiltrées, soit contrôlées par les cartels. Donc, on voit bien que le contrôle, il est très, très net et on l'a bien vu avec Iguala et les 43 étudiants disparus. C'est même au niveau du gouverneur de l'État que ça se passait. Hein. Donc, les arrangements, en fait, ils sont très simples. Il y a beaucoup d'argent à gagner, hein, et beaucoup d'argent à distribuer. En gros, c'est difficile à savoir, mais selon les évaluations à la fois de la DEA américaine et des forces armées mexicaines, les revenus du trafic de drogue au Mexique, c'est entre 20 et 50 milliards de dollars. Donc, évidemment, il y a de quoi distribuer. On achète. Et c'est pour ça qu'il y a ce système national anticorruption qui a été mis en place. Donc, on peut acheter pas cher ou très cher, ça dépend de la personne. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est pas seulement, d'ailleurs, c'est le mot existe, on dit plata o plomo, hein, de l'argent ou du plomb. La menace peut suffire pour convaincre les personnes adéquates d'adhérer au projet du cartel. Donc, des arrangements, ils se font par la menace, par la contrainte, par la séduction. Hein. Ça se fait aussi parce qu'il y a une culture très forte de la corruption au Mexique, et cette culture-là, elle est très très difficile à déraciner.
Est-ce qu'il y a eu un impact à l'arrestation d'El Chapo ?
L'arrestation d'El Chapo a eu un impact médiatique très important. La double arrestation, sans compter les arrestations antérieures, puisque c'était quand même un roi de l'évasion. Donc oui, symboliquement, c'était important pour Enrique Peña Nieto de l'arrêter, et surtout de l'arrêter de nouveau, parce que c'était un terrible camouflet pour le gouvernement mexicain. Donc il y a eu un impact important sur le plan symbolique, sur le plan aussi des relations extérieures. Pour le Mexique, il était très important vis-à-vis du partenaire nord-américain de montrer qu'il y avait une véritable lutte contre cette gangrène, contre cette plaie, et qu'il y avait des mesures qui étaient prises. Bon, maintenant, il faut voir la réalité. El Chapo l'a dit lui-même, il continuait à diriger. Et je pense qu'il va continuer à diriger. Alors, on s'achemine vers une extradition. S'il est extradé, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais il y a déjà des gens qui vont prendre la place, on le sait. Donc ça ne va pas chambouler complètement la hiérarchie dans le cartel de Sinaloa. Ce qui peut se passer, et c'est ce qui s'est passé systématiquement, hein, c'est que si un cartel est affaibli, ça profite à un autre. Et on le voit très très bien justement avec le cas du cartel Jalisco Nueva Generación. Ce cartel-là a profité des coups qui ont été portés aux Caballeros Templarios. Les Caballeros, les Templiers, se sont affaiblis, et bien Nueva Generación est arrivée et a pris la place. Donc il n'y aura pas de transformation visible, directe, avec l'arrestation même d'un chef aussi important que Chapo Guzmán.
Et pour parler de la mobilisation populaire, on s'en souvient, après la mort des étudiants d'Iguala, les manifestations avaient été beaucoup médiatisées. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Il y a toujours de la mobilisation pour les étudiants d'Iguala. C'est important de le noter et de le dire. On rappelle qu'ils ont été enlevés, qu'ils ont disparu. Les étudiants sont très mobilisés au Mexique. Il y a de fortes mobilisation du côté des universités. On le rappelle, on le souligne, on dit qu'il faut continuer à lutter contre cette plaie qui est une plaie non seulement nationale, mais aussi internationale. Il y a des mouvements sociaux qui se sont emparés du problème et qui ont essayé de le mettre sur la place publique et de le maintenir. Mais finalement, à part cette prise de conscience très importante du rôle des autorités dans la collaboration avec les narcotrafiquants. Et c'est la dénonciation de la corruption latente, hein, de la même société, eh bien, on n'avance pas beaucoup. On n'avance pas beaucoup, pourquoi ? Parce que, effectivement, les enjeux économiques sont tellement forts que la société est muselée depuis le haut jusqu'au bas. Prenons l'exemple des groupes d'autodéfense. Il y a des groupes d'autodéfense qui ont été créés dans les zones les plus sensibles et les plus fragiles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de manifester, de protester, hein, mais il s'agit aussi, hein, de lutter contre ces narcotrafiquants, et notamment au Michoacán, par exemple. Eh bien, le problème, c'est qui fait partie de ces groupes d'autodéfense? Comment sont-ils contrôlés? Est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes les membres cachés d'un cartel qui veut lutter contre un autre? On a essayé de les contrôler, on leur a donné des uniformes. Eh bien, je peux vous assurer que c'est impressionnant. J'étais l'année dernière au Michoacán. Vous vous promenez, vous sortez de Zamora. Vous avez des emplacements surveillés avec des postes de contrôle, des sacs de sable et des gens qui ont des mitraillettes et des armes d'assaut. Ce sont ces fameux groupes d'autodéfense qu'on a essayé plus ou moins d'incorporer à des forces autorisées, mais ça ne donne pas une atmosphère, on va dire, paisible, bien au contraire, et je trouve très sincèrement que ça ne rassure pas. On est dans une situation de conflit permanent. L'année dernière, les membres du cartel Jalisco Nueva Generación ont fait une attaque très forte à Guadalajara. Donc c'était pour le 1er mai, eh bien, ils ont sorti des armes lourdes et ils ont même abattu un hélicoptère avec un lance-roquettes. Donc c'est pour vous dire que ces manifestations-là de la société civile sont importantes, mais le problème est tellement lourd et tellement dur que ce sera très difficile de s'en sortir.
J'allais peut-être vous demander, pour finir, est-ce qu'il y a une note d'espoir parmi tout ça?
Alors, est-ce qu'on peut effectivement parler quand même, malgré cet horizon très sombre, d'une note d'espoir? Alors, honnêtement, je pense que oui. D'abord, grâce à la prise de conscience de la population. Vraiment, les 43 étudiants d'Iguala, ça a sonné dans toutes les consciences collectives. Et les gens en ont assez. Assez des narcotrafiquants, mais assez aussi des politiciens corrompus. Ils veulent que ça change. Donc ça, c'est peut-être un espoir. Le deuxième espoir qui peut venir, c'est un changement complet dans les systèmes de lutte contre les narcotrafiquants. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut les frapper au porte-monnaie. Et donc si le président, celui-ci ou celui qui va lui succéder, peut mettre en œuvre, grâce au système national anticorruption, des mesures pour surveiller les banques, et pour empêcher les trafics monétaires, je pense que là, il y aura un point important. Troisième point qui est important aussi, ne l'oublions pas, c'est que le problème actuel du Mexique vient en grande partie des États-Unis. Sur le plus gros marché consommateur de drogue, il est aux États-Unis. S'il y a des mesures qui sont prises aussi aux États-Unis pour lutter contre le trafic de drogue de manière beaucoup plus efficace, il y aura des répercussions sur le Mexique. Et de la même manière, et c'est tout aussi important, si les États-Unis réussissent à transformer leur philosophie vis-à-vis des armes que l'on peut acheter de tous les côtés, là aussi, ça changera. Parce que 90% des armes qui entrent au Mexique sont des armes qui viennent des États-Unis. Donc le Mexique envoie de la drogue, les États-Unis envoient des armes, c'est là aussi, il me semble, qu'on peut viser quelque chose. Alors bien sûr, si c'est Donald Trump qui est élu, on peut faire une croix définitive sur le changement des règles concernant les armes à feu. Si c'est quelqu'un d'autre, on ne sait jamais, là aussi, il y a peut-être une lueur d'espoir.